93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
8h17. Mais pourquoi pas deux matins de suite?
Ben
en plus, là, c'est vendredi de Pâques.
On se gâte.
C'est tranquille. Ça me tente. Alors, hier, on a eu encore beaucoup de bonnes réactions. On a eu Pierre-Yves McSween. La série Un verre avec, c'est quoi? C'est des. Grosso modo, c'est bien simple. C'est des gens avec qui on aimerait prendre un verre et jaser dans un contexte autre qu'une entrevue à la radio pour parler de tout et de rien. C'est souvent les conversations les plus intéressantes. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas... Alors, c'est des gens qui ont du vécu. Hein? C'est tout du monde qu'on aimerait ça poser certaines questions, des fois un peu plus intimes, ou des sujets qu'ils n'ont jamais abordés, ou c'est des gens, grâce à ma mère, ils n'avaient donné aucune entrevue avant de nous parler. On a jasé avec Claude Poirier, on a jasé avec Bernard Drainville, avec Jérémy Gabriel, avec Michel Laplante, avec Pierre-Yves McSween, hier, je l'ai dit. Est-ce que je les ai toutes nommées?
Joanie.
Et Joanie d'Occupation Double, ça a été notre record.
Oui,
partage ça en termes de réécoute, là. Oh ouais. Boy! Parce qu'elle a fait des révélations assez spectaculaires sur les moments intimes, notamment à OD.
Oui.
Ce matin, je suis content. On reste à Québec. On reste dans le domaine de la radio, pourquoi pas. Et dans le domaine des faits divers. Tu sais, l'entrevue avec Claude Poirier, on a commencé avec ça. C'est un monde fascinant. Le monde de la culture, des finances, tout ça, la politique. Oui, mais moi, c'est depuis le début de ma carrière, j'aime ça, les faits divers. Et si je vous dis, je suis sûr qu'il y a des auditeurs un peu plus âgés, oui, parce que ça fait un petit bout, là, qui a pris sa retraite, mais si je vous dis Québec et faits divers et radio, alors, ça prendra pas 30 secondes qu'il y en a qui vont écrire son nom, je suis sûr, à 25-226. Ça a été une des personnalités marquantes. Il a couvert les faits divers à la radio pendant je sais pas combien d'années exactes. On va l'apprendre parce que Pascal CV est allé prendre un verre avec Bruno Perron.
Bruno Perron, mesdames et messieurs. Souvent, derrière des articles de presse ou encore des reportages radio, ce qui est le plus cliqué, c'est les faits divers. Ça intrigue les gens.
Ça marche au bout.
Ben, c'est sûr que ce qui va aussi intriguer les gens, c'est la personne qui couvre ces faits divers-là. Puis souvent, il ne parle que de son reportage, mais là, il va nous parler de l'envers du décor.
Parce que Bruno, dans les dernières années à Québec, là, dans toutes les années où il a œuvré à la radio, là, il a été associé puis il a couvert. C'est ça qui va être le fun. Si vous ne savez pas c'est qui Bruno Perron, parce que vous avez 20 ans, ça se peut, là. Mais vous êtes. Les événements qu'il a couverts, vous les connaissez, là. Tout ce qui est arrivé de gros à Québec sur le terrain, il l'a vécu.
Ouais, les 40 dernières années, là, au fait divers,
hein?
C'est lui qui était là.
Oui.
Et souvent, il était le seul reporter des radios privées qui était sur la route. Donc, toujours le premier arrivé et celui qui informait les autres radios qu'il se passait quelque chose. Et vous allez comprendre que des fois, il informait même la police, l'armée. Mais vous allez voir,
Ouais, okay.
Donc, il a travaillé pendant des années au fait divers à Québec, dans plusieurs stations de radio. Il a fermé plein de stations radio qui étaient mythiques ici dans la région. Je lui ai demandé tout d'abord, c'était quoi ton horaire? Parce que tu travaillais de nuit, mais tu étais en ombre le lendemain.
T'es un gars de fait divers, ça travaille souvent 24 heures sur 24. Là. Ça, c'est pas évident.
Je partais, là, je me levais à 4h moins 4. À tous les matins, là. Puis je partais. Je m'en allais à la station, je faisais mes round-up de police, ou des fois je rentrais direct parce que je partais d'un feu la nuit. Moi, ça commençait à 4h moins quart le matin, ça finissait, Dieu sait quand. Ça pouvait finir à minuit le soir, je pouvais me relever la nuit. Durant la guerre des motards dans les années 90, il n'y avait pas de nuit que je me levais pas, s'il n'y avait pas un événement là, qui se passait, une bombe qui sautait, un cocktail de Molotov, quelqu'un qui s'était fait tirer. Il y avait quelque chose constamment. Puis, ça se passe la nuit, mais si tu veux être en onde le lendemain matin, bon, Yann, faut que tu y ailles.
Hey, t'es vraiment sur le beat, t'es pas à peu près. Tu sais, l'expression « être sur le beat », là, fait que lui, aussitôt qu'il arrive de quoi, qu'importe l'heure, fallait qu'il...
Il partait.
Puis, ça brassait plus dans le temps.
Hey,
tu sais, aujourd'hui, là, quelqu'un qui est au fait d'hiver 24 heures sur 24, là, et c'est pas
un
comme...
peu plus relax.
Non, c'est pas comme avant. Il y a un meurtre aux deux ans, des fois. Pendant la guerre des motards, il l'a bien dit, ça sautait quasiment toutes les nuits, ça tirait.
Ben ah oui. Hey.
Puis je me souviens de ce que Claude Poirier m'avait dit aussi dans l'entrevue. Il dit, dans le temps des porte-paroles des services de police, t'avais pas ça. L'information, t'allais la chercher auprès des intervenants.
Exact. Et avoir un reporter sur la route, c'était un luxe, puis c'est encore un luxe, encore plus les années avancent. Quand je vous disais, c'était souvent le premier sur les événements. Le feu au manège militaire, c'est le premier qui est arrivé. Il a averti les autres et même il a averti les militaires de venir chercher des artefacts à l'intérieur. Et là, il dit, c'est là que ton métier prend tout son sens quand t'es aussi intéressant, mais surtout aussi nécessaire en société. Mais on va parler de certains événements qui ont marqué Québec, mais qui l'ont marqué aussi. Le premier événement, qui en sont plusieurs, c'est les émeutes ici dans la ville de Québec, les toutes premières.
Ouais. Les premières émeutes qu'il y a eu, mettons de la Saint-Jean, mais c'était pas la Saint-Jean, à un moment donné, c'était au mois de mai, une belle soirée, ça avait pris sur l'émeute dans le Vieux-Québec. Les policiers... étaient très mal équipés. Les policiers de Québec étaient très mal équipés, très mal organisés pour ça. Ça avait donné lieu à beaucoup de critiques par la suite, dans les années 80, je dirais. Bien, parce qu'ils n'étaient pas prêts à intervenir. Moi, je me souviendrai toujours le lieutenant Voisard, aujourd'hui décédé. Il était dans le milieu de la place, avec le sang dans la figure qui coulait, puis qui disait... Il y avait les gaz lacrymogènes qui étaient lancés. Il était tellement sur l'adrénaline que les gaz lacrymogènes ne l'affectaient même pas. Moi, j'étais là, puis j'ai les yeux me pleuraient, puis en tout cas, moi, j'en ai sniffé pas mal de gaz lacrymogènes dans ma vie, là. Mais lui, il était tellement sur l'adrénaline que ça ne l'affectait pas, puis il avait été coupé à la figure. Il y avait le sang qui coulait dans le visage. Il disait « Salut, Bruno! » Puis il est toujours très cool, puis là, il essayait de prendre le contrôle du mieux qu'il pouvait, mais il n'y avait pas de monde. Moi, année, les policiers ont fini par arriver. Il y avait des jeunes qui lançaient des projectiles. Il y avait des policiers qui lançaient des gaz lacrymogènes. C'est là qu'on a appris que contrôler une foule au poivre de Cayenne, c'était pas idéal. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y en avait pas d'émeute, donc il n'y avait pas l'expérience. Et je peux te dire que depuis ce temps-là, ils en ont pris beaucoup à aller jusqu'au sommet des Amériques où on a sorti les canons à neige d'un centre de ski pour renvoyer les gaz lacrymogènes vers les manifestants, par exemple. Alors, ça a évolué beaucoup les techniques des policiers.
Je vous en parle des fois, hein, si on fait un sondage et on demande aux gens est-ce que la société est plus violente qu'avant, c'est un fort pourcentage qui disent oui. C'est un des plus grands mensonges, c'est faux. T'sais, il fait juste nous rappeler les émeutes à Saint-Jean. C'est fini, ça. Terminé avant, c'est rendu qu'à chaque Saint-Jean à Québec, ça débordait, là. Les vitres étaient cassées dans le vieux Québec, ça durait quasiment toute la nuit. Tout ça est fini. D'abord, et une des raisons, il l'a bien évoqué, les policiers travaillent mieux qu'avant. À l'époque, là, c'était amateur.
Il n'était pas prêt pour ça. Événement qui est encore très clair dans sa tête et peut-être dans la vôtre aussi.
La fusillade de l'Assemblée nationale, par exemple. J'étais sur une conférence de presse de l'organisation de Québec 84, les grands voiliers à Québec. Et là, on vantait des mesures de sécurité qu'on avait mis de l'avant. C'était à toute épreuve. C'était incroyable. On travaillait fort pour la sécurité. T'sais, on a essayé de tout prévoir. Au même moment, je reçois un appel. On dit, ça tire à l'Assemblée nationale. Je dis, pardon. Je pars, j'arrive, à part les journalistes qui étaient à l'intérieur, qui s'étaient cachés comme ils pouvaient, j'étais un des premiers à arriver en face de l'Assemblée nationale, parce que la conférence de presse, c'était pas très loin. Et puis là, je t'avoue que c'est l'inconnu. J'ai entendu tirer, j'ai entendu des balles, mais ça vient d'où, qu'est-ce qui arrive? Et là, on se promenait à quatre pattes à côté des autos de police, on savait pas si on se ferait tirer ou pas. Là, à un moment donné, je vois un militaire qui apparaît à l'autre bord d'un muret. Puis là, je lui dis, viens ici, il a tiré. Lui, il avait été témoin de ce que Lortie avait fait. Il avait fait feu à la citadelle sur des murets, tout ça. Il l'avait vu tirer. Et puis il m'expliquait qu'il y avait quelqu'un qui tirait comme ça. Puis là, je dis, on va se faire tirer, ça y est. Mais là, finalement, les policiers sont arrivés, ils ont encerclé. Puis quand ils ont arrêté Lortie, à un moment donné, ils ont attiré les journalistes à une porte avec un point de presse. Mais moi, comme j'étais tout seul, je travaillais dans des conditions toujours pas faciles. Hein, j'étais jamais dans le bon poste de radio avec la grosse équipe. C'était à moi l'équipe. Fait que c'est ça qui me permettait de vivre des moments quand même assez palpitants parce que c'était toujours moi. Fait que là, il y avait un type qui avait été témoin, qui l'avait vu à l'Assemblée nationale. Puis il a vu que les policiers ont passé avec leur véhicule tout près du mien alors que j'étais en reportage. Puis il m'a fait signe, il est là. Il avait couché sur un siège. Alors c'est bon qu'il a pu dire, OK, il est arrêté, c'est fini, puis tout ça. Alors que les autres étaient tous là au point de presse, puis ils se faisaient compter toutes sortes d'histoires par les policiers.
Ça, là, on devrait passer cet extrait-là dans les écoles de journalisme. Quand t'es sur le terrain... Ben, il y a des risques, par exemple. C'est fascinant. Il dit qu'il s'est promené à quatre pattes puis il a eu peur de se faire tirer, là. Fait qu'il était au plus proche de l'action. Mais ça lui a permis d'avoir l'information en premier de dire, ça y est, c'est confirmé, le tireur a été arrêté.
Il a dit souvent, durant l'entrevue, moi, mon trip, c'est d'être où personne n'est.
Ouais.
Personne étant les journalistes. J'y suis pas, je suis pas la troupe,
si
m'en vais ailleurs.
T'es en même place que toutes les autres, tu vas avoir l'information comme toutes les autres.
En même temps.
Ouais, ah, exactement. Oui. Il renchérit sur des événements spectaculaires qu'il a vécu. C'est un petit melting pot.
J'ai passé ma vie dans des choses spectaculaires, tu sais, des fusillades, une bombe qui a sauté, par exemple, dans la guerre des motards. Le petit robot, là, était allé pour désamorcer une bombe dans le coin du boulevard Montmorency, un bar qui était là. La bombe a sauté, on a senti le souffle de la bombe sur nous. Des événements semblables, par exemple, un forcené qui tirait, puis des balles nous sifflaient au-dessus de la tête sur le boulevard Sainte-Anne. C'est pour ça qu'à un moment donné, au fil des ans, mais là, les périmètres de sécurité se sont élargis. Là, c'est, aujourd'hui, s'il se passe quelque chose à Montréal, le périmètre est à Québec. Là,
c'est vrai, ça.
Oui, ça a changé.
C'est pas le même trip, c'est pas le même plaisir pour un journaliste. Ben, c'est un défi, on va pas dire plaisir, parce que c'est pas toujours.
Non, mais ils nous ont éloignés de plus en plus, puis ils ont mis aussi des barrières qui s'appellent les porte-paroles. C'est les pires barrières, là, qui disent à peu près rien. Et je pense que Bruno, dans son temps, avait plus accès un peu à l'action.
Oui, exact. Et puis il était dans toute la péripétie de la guerre des moteurs. Lui, il était énormément attitré à la couverture de tout ça. Et dit, c'était très, très bouillant. Il y a eu au-delà de 200 blessés morts là-dedans. Ça pétait tout bord, tout côté. Il a gardé une pièce de voiture qui avait été sautée. Il l'a gardée chez lui là encore parce qu'il dit elle est tellement tordue et rouillée qu'il dit c'est impressionnant. Moi, jamais je vais me départir de ça. Ça, c'est des petits morceaux de cette guerre-là qu'il garde avec lui. Mais il dit que c'était aussi tout un jeu de manipulation du côté des policiers et des criminels.
L'info vient de tout bord, tout côté. Et là-dedans, il faut surtout faire attention pour pas se faire manipuler. Ni par la police, ni par les motards ou leurs représentants ou leurs avocats. J'ai souvent, on va dire, certains diraient perdu des scoops, mais moi, j'en voulais pas des scoops où j'étais obligé de vendre mon âme pour les avoir, si on veut. Là. Ça, moi, je me suis toujours refusé à ça. Regarde, tu me passeras-tu telle affaire, là? Tu me sais, je te le dis, là... Je vais te donner une bonne information, là, mais tu sais, parle pas de ça. Là. C'est bien de valeur. Si j'avais à en parler, j'en parlais. Puis si j'avais pas à en parler, j'en parlais pas non plus.
Ça a été très, très bien illustré. Je sais que Claude Poirier pense un peu la même chose. C'est pas étonnant. Si je vous dis que les motards ont un intérêt à passer des infos, mais la police, ben oui, la police joue à ça un peu.
Mais oui.
Il y a un épisode dans, voyons, comment ça s'appelle, la série de Luc Dionne sur les motards.
Omerta. Ouais.
Ben, c'était sur la mafia et Omerta. Dans Omerta, à un moment donné, la police fait ça. Je sais pas si Luc Dionne l'a inventé, là. Mais juste pour déclarer, tu sais, pour qu'il y ait une guerre entre deux gangs, là, il envoie une info au journaliste. Hey, ça a l'air qu'un tel est menacé par telle gang, là. Sors donc cette info-là, qu'un tel, sa tête est mise à prix. Puis il n'y avait rien de vrai là-dedans. Il voulait juste que ça se poigne, que la guerre décolle, puis qu'il puisse arrêter tout le monde. Alors, il peut y avoir de la manipulation des deux côtés. Bruno l'a bien expliqué.
Ça jouait du coude, là. Ça n'avait pas de bon sens. C'est ce qu'il m'expliquait. Il m'a donné plein d'exemples, mais en voici un.
Je me souviens d'être allé sur un événement où la police faisait une descente dans un bar dans le quartier Saint-Pascal. Puis le gars voulait pas qu'on soit là. Puis il était venu me voir. Hey, il dit, t'es mieux de te tasser parce que tu m'as organisé. Je vais t'organiser ça. Moi. Il me dit ça à l'oreille. Il se pense à l'oreille, puis il me dit ça. J'ai fait signe avec le doigt, viens ici. Il dit, t'es mieux de sacrer ton camp, toi, parce que je te fais ramasser. Si tu te lèves, mieux sacrer son camp. Bon, prenez une chance, puis à un moment donné, où tu te tiens debout, tu te tiens pas debout, tu cours pas après le trouble, mais tu laisses pas le trouble venir à toi non plus. C'était les petits bandits de rue et cervelés. Ça, c'était tellement imprévisible. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Les gros motards, les caïds, disons que sont plus une approche business, si on veut. Donc, sont peut-être plus raisonnables pour faire une certaine part des choses, bien que ce soit du crime, on s'entend.
Oui, je suis 100% d'accord avec lui. J'ai aucunement son expérience et son vécu, mais j'ai été 5-6 ans au palais de justice. Il n'y a jamais un motard qui m'a menacé. Il n'y a jamais un caïd qui m'a menacé. Mais le petit fonctionnaire, là, pogné pour porno juvénile, là, il voit y arriver le journaliste, là. Hey, m'a t'enfoncé mon crayon, toi. Arrête ça, toi. T'écriras pas de nouvelles. Oh, j'ai tout ça. Mais il faut que tu dénonces tout de suite. Regarde, tu vas chez l'agent de sécurité, la police, un peu comme, non, hey, toi, là.
Non, tu laisses pas passer ça.
Non, sinon, ben oui.
Tu te laisses pas intimider, là.
Il a raison. C'est souvent les petits écervelés, les tout petits. En haut, ben souvent, ils t'envoient la main.
Ils t'envoient la main. Ils respectent des codes.
Ouais, ils savent que rendu au palais de justice, on va parler d'eux autres. Puis ils ont certaines règles. Ils veulent pas qu'on parle de leur femme, puis qu'on filme leur conjoint, tout ça. Puis en général, c'est respecté. Ça, ils veulent pas ça. Le reste, tu fais ta job.
Tu sais, dernièrement, Sylvain, tu me parlais du déluge au Saguenay. Puis tu disais que, ben, toi, c'est un événement marquant parce que tu voyais des choses spectaculaires. Tu as rencontré des gens qui avaient des histoires pas possibles.
Écoute, je le dis en l'expliquant toujours. Moi, c'est mes plus beaux souvenirs de radio sur le terrain, même si c'est un événement dramatique. Écoute, quand je travaille là-dedans. Eh oui.
Exact. Puis lui, il se rappelle de l'île Enchantresse. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. La rivière qui avait complètement enseveli l'île, là, était passée dessus et pas à côté. Exact. Lui, il était déployé sur place pour aller faire la couverture de l'événement. Ouais. Et dit, à la radio, on parlait à l'armée. Donc, c'est comme si en ce moment, on parle à l'armée. Ouais. Puis les gens appelaient pour parler à l'armée sur notre ligne radio.
Ça remonte à quand, ça, hein? Au côté année, là?
Moi, début des fois. 90, peut-être.
Début 90?
90.
OK.
Fait qu'eux, ils servaient de canal de entre communication l'armée, entre puis... l'armée et les citoyens qui sont dans l'eau, pas à peu près. Il dit, je vais me rappeler de cet événement-là, mais encore plus des gens que j'ai rencontrés.
Le ministre Ryan est allé un peu plus tard faire le tour. Il arrive là, il était en petite plaque, là. Là. Des petits caoutchoucs, là, tout minces, là. J'enregistrais ses claques dans l'eau, là. Là, j'ai fait jouer à la radio, puis tout le monde le voyait, il s'imaginait, puis il le voyait marcher avec ça. Il disait, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Ça avait pas de bon sens. Puis là, je me souviendrai toujours d'aller l'enchanteresse. Un gars, c'était terrible. Tu sais, quand tu dis que le malheur frappe quelqu'un, il revenait dans sa maison qui avait été inondée, il avait tout perdu. Le gars, il dit, il avait réussi à sortir de peine et de misère. Sa femme était hospitalisée à cause de ça. Lui aussi avait été obligé d'aller être hospitalisé parce que là, le cœur, il débattait. Il y avait sa petite fille qui savait plus où elle était rendue. Là, son char était fini, il avait tout perdu. Et là, il venait d'apprendre que sa belle-mère était morte, qu'elle était rendue au salon funéraire, que là, il y aurait les funérailles en fin de semaine, il ne sait pas si sa femme devrait être sortie de l'hôpital. Puis il dit, nous autres, on prévoyait s'en aller à Disney World avec notre petite fille. Puis il dit, là, tous les billets d'avion, puis ils sont tous dans l'eau.
Hey, malheur après malheur.
Ça, c'est en étant aussi sur le terrain que tu es capable de recueillir.
Puis Éric Jaune, là, vous comprenez.
C'est confidentiel. Ben oui, on a compris.
Il rit pas du malheur, là. Ben, il dit, il y a des histoires qui te frappent plus que d'autres. Histoire avec un dénouement rocambolesque, puis pour vrai, on a des appels comme ça à pocheter au 93. Puis des fois, on n'a pas assez d'effectifs ou de temps pour aller voir ce qui se passe. Mais lui, il l'avait et il le faisait, puis ça menait à toute une histoire.
Il y a un citoyen de bonne journée qui me dit, regardez, venez voir mon terrain, ça fesse. OK, je m'en vais là. Il prend une barre de fer, puis il donne un coup dans la tourbe, puis oups, on voit que la barre de fer passe tout droit. Mais là, il dit, j'ai appelé la ville, puis ils disent que c'est pas bien, bien grave, tout ça. On se met à faire des recherches, tout ça. Fil en aiguille, hey, c'était... Sa maison t'a après s'écrouler, le trou t'a après s'agrandir, la ville est obligée d'intervenir, faire une grosse cheminée, puis remplir ça. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait tout un réseau de grottes souterraines, OK, qui passaient dans ce secteur-là et que ça pouvait s'affaisser. Et de fil en aiguille, je suis allé avec un spéléologue dans un réseau de grottes souterraines qui existe dans le secteur de Bois-Châtel. Il y en a beaucoup. On se promenait avec la lanterne, là, et c'était fantastique. T'sais. Ça part d'un citoyen qui t'appelle et dit, il me semble que mon terrain s'affaisse un peu.
Ça aussi, il y a une grande leçon là-dedans. On en parle des fois dans l'équipe, puis moi aussi, je peux tomber là-dedans. Là. C'est pas parce que... Mais des fois, l'expérience, faut que ça serve. Des fois, il y a des gens, on a reçu tel appel, Sylvain, tel courriel. Mais non, ça se peut pas. Là. Garde ça, là, lui. Appel. Appelle pareil, vérifie, check, tu sais jamais. C'est vrai que bien souvent, ça va être du n'importe quoi, parce que oui, on est victime de ça, il y a des gens qui nous appellent. Mais des fois, ça vaut à peine de prendre des chances, de faire ce que Bruno a fait. On va y aller voir.
Hey, il était rendu à l'autre frontal, dans des grottes souterraines, à Bois-Châtel. Mm-hmm. Puis les maires disaient, je les appelais à chaque jour, là, les maires des municipalités, parce qu'eux disaient, oh, c'était pas grave, puis tout ça, puis ça va se régler. À chaque jour, j'appelais, je disais, bon, ben le trou est rendu un décimètre de plus. Bon, ben c'est bon, il a perdu son chien, il a perdu sa niche, il est tombé dans le trou. C'est une blague, là, il a pas perdu son chien. Sa niche, mais il en mettait à chaque jour pour dire là, déniaisez-vous puis réglez le problème. Mais c'est pas rien.
C'est dangereux, certain.
Tu vois des fois que le pouvoir journalistique peut aider. La dernière clip que je vous présente, c'est parce que c'est vraiment drôle. Ça a donné tout un moment de radio aux auditeurs, mais aussi, c'est du bonbon pour un journaliste.
Une petite ville sur la rive sud de Québec, il y avait un maire qui était un peu étrange. On s'en va à l'Assemblée. Là, le maire voulait pas qu'on soit là. Mais je dis, monsieur, c'est une séance publique, là. OK, fait que j'enregistrais. On avait le droit d'enregistrer. OK, j'enregistrais. Il arrive, le maire, je lève en pleine séance, ça vient dans mon sac. Puis là, il arrache mon microphone d'après mon enregistreuse, puis il part avec à la table en avant. Puis là, il commence à m'engueuler, puis à dire des choses, puis c'est ci, puis c'est ça. Moi, je riais dans ma barbe, je le laissais aller, puis là, il était fier, il avait mon microphone en otage, puis il délirait, c'était incroyable ce qu'il disait. Mais les TCM 5000, c'était le modèle d'enregistreuse Sony à l'époque. Quand tu débranchais le microphone sur la chose, le microphone qui était sur l'appareil prenait le relais. Alors lui, ce qu'il savait pas, c'est que je l'enregistrais. Quel beau spectacle le lendemain matin en honte. On avait tout. C'était hilarant, c'était fou braque. Le maire, quelques temps après, a démissionné. Là, ça avait pas de bon sens, il était complètement parti.
Ça Ça me rappelle des souvenirs, ça, ces appareils-là, Sony. C'est vrai, si tu décroches le micro, hein, il y avait le fil.
Le microphone intégré dans, dans l'appareil, dans l'enregistreur.
Il aurait fallu qu'il paye sur stop. C'est ça qu'il n'a pas fait. Alors, il était encore, comme on appelait dans le temps, sur Play Record.
Oui. Play Record.
Ça, c'était mot, c'était une expression. On paye sur Play Record. C'est Rewind. Rewind.
Rewind,
c'est
oui.
Deux touches.
Fast Forward. C'est
rembobiné.
Fini, ça. Ça, ça. C'est des expressions qui
Roo.
Sont.
On mettait à Rue pour revenir.
Qui sont plus là. C'est plus tranquille aujourd'hui, mais honnêtement, on voit à quel point ça, ça brassait et on l'oublie des fois. À quel point il y a eu, que ce soit la guerre des motards ou autre, etc. Tant mieux, là. C'est sûr que pour nous autres, ben, c'est plus tranquille. Des reporters temps plein aux faits divers, il y en a de moins en moins.
Et je lève mon chapeau à tous ceux qui l'ont fait. Tu sais, de se lever la nuit, écouter ces radios, essayer de...
Mais il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ça. Puis on sent quand Bruno, il raconte ça. Évidemment, je le répète, tu souhaites jamais qu'il arrive des drames, des meurtres, tout ça. Mais il faut que tu aimes l'adrénaline, il faut que tu aimes l'action, être là sur le terrain, c'est ça que tu aimes. C'est pas le malheur des gens. Non. C'est d'être là où ça se passe, l'adrénaline toute, rapide, d'être le premier, d'informer les gens de Québec, de donner. C'est ça qui fait en sorte que tu aimes, puis tu es passionné, puis tu réussis une carrière
passion.
Comme celle de Bruno.
Ah, c'est une passion.
C'est la même adrénaline qui drive les gens des services de secours publics, les ambulanciers, les policiers, pompiers.
Tu travailles à l'urgence.
Ah, oui.
En quelque part, il faut que tu sois fait pour ça. Là. C'est toujours malheureux. Les gens y arrivent, sont blessés, malades. Ouais. Mais ceux qui travaillent, ils ont choisi, mettons, l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'est là où les pires cas sont. Les pires, les polytraumatismes, les accidents de moto ou de d'auto. Ceux qui ont choisi ça... C'est pas c'est ça qu'ils veulent.
Oui.
C'est le challenge, le défi, l'adrénaline, c'est ça qu'ils veulent.
Jeff Labrie, que vous avez bien connu, puis les auditeurs aussi.
Qui a fait ce métier-là pendant un bout.
Je mangeais avec un ancien collègue ici, puis il me parlait de Jeff Labrie dernièrement, puis c'était un autre journaliste qui était sur la route la nuit. Puis il me dit, lui, là, à chaque fois que tu entendais qu'il y avait un événement qui se passait, tu voyais les ambulanciers puis les policiers, puis tu avais toujours Jeff Labrie en arrière, tellement qu'il était le premier sur l'événement.
Quand tu rentrais dans son char, il y avait sept, je me souviens plus du nombre d'appareils qu'il y avait pour espionner les ondes radio. Là.
Oui, c'est vrai.
Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, attention, là, la nuit, même le bout où il y avait une blonde, tout ça, là, les appareils étaient là. Là.
Oh, oui.
Non-stop.
T'es marié à ces appareils.
Non-stop. OK?
Oh oui, dès qu'il y avait quelque chose, il partait.
Oh oui, puis il n'y avait pas de contravention, même s'il ne respectait pas toujours les limites de vitesse, tellement il était connu, puis les gens disaient qu'il était essentiel à la ville de Québec.
Des fois, c'est les journalistes qui avertissaient les autorités. Là.
Et un petit commentaire en terminant. Oh, je l'ai dans la tête depuis tantôt. Je me dis, j'en parle-tu, mais c'est Vendredi Saint. Là. Hey, merci à Bruno. Je suis sûr qu'il a rappelé des souvenirs. C'est toujours des événements tragiques, mais des beaux souvenirs de couverture journalistique.
Et je le salue, mon ami Bruno, avec qui j'ai travaillé 2 ans avec les 2 dernières années de Québec 800. Ouais.
Et une belle preuve que quand tu as réussi ta carrière, quand on a dit tantôt Fait d'hiver, radio à Québec, là, ça n'a pas été long que les gens ont écrit Bruno Perron à 25226, donc les gens se souviennent de lui encore. Des chroniqueurs comme lui, il y en a de moins en moins. Vous savez pourquoi? C'est plus tough pour les médias, mais c'est aussi que des feux, des guerres de motards, des incendies, des émeutes, il y en a moins.
Oui, c'est ça.
Vous êtes d'accord avec ça?
Mais oui.
La police et les pompiers à Québec, est-ce que ça a diminué beaucoup? Conversation que j'avais eue avec la mairesse Boucher quelques temps avant qu'elle meure.
Mais la job a changé beaucoup, par exemple.
Oui, ils font du travail quasiment d'intervenants sociaux et d'infirmiers.
C'est des travailleurs sociaux.
Ouais,
les réseaux sociaux aussi,
sont pas payés.
C'est une galère.
Mais ils ne sont pas payés pour ça. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils se retrouvent avec ça. Mm. Non, je sais que syndicalement, il y en a qui vont être fâchés. Je fais juste poser la question. Je peux vous confirmer que la mairesse Boucher se la posait. Elle a commencé à analyser ça. Là. Comment ça nous coûte en pompiers et en policiers, alors qu'il n'y a quasiment plus de feu, puis les événements criminels sont en baisse constamment. Notamment dû à plein de phénomènes, embarquons pas là-dedans, mais c'est ça, là. Ça brasse moins qu'avant. Des sirènes à Québec, il n'y en a jamais eu aussi peu. Alors, les ambulances, oui, avec le vieillissement de la population, ça, il en manque. Mais je parle des pompiers et des polices. Est-ce qu'il y en a un petit peu trop? Je sais pas. 25-226.